Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure de retrouver Victor Pourchet pour le journal. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Le Parc des Princes a célébré les Rois d'Europe.
La fête à Paris s'est terminée en apothéose dans une enceinte du PSG pleine à craquer. Sans violence majeure cette nuit, alors qu'en recevant les joueurs à l'Élysée, Emmanuel Macron avait promis la fermeté contre les fauteurs de troubles. Vous entendrez aussi l'angoisse des Libanais au moment où Israël élargit son contrôle sur le sud du pays. Et la dernière Française à Roland-Garros sur les courts aujourd'hui, Diane Paris, vise une place en quart de finale.
Le retour des héros à Paris.
C'était le périple des joueurs du PSG. Deuxième Ligue des Champions consécutive sous le bras. Hier, d'abord fendant la foule sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Et puis, ces images de communion toute la soirée, l'effervescence au Parc des Princes, l'équipe avec le trophée au centre du terrain. Et Marquinhos, le capitaine au micro.
Juste au nom de tous les joueurs, tout le staff, on vous remercie pour toute cette année, cette longue année. La douzième, elle est incroyable!
Une fête dans le calme hier, si ce n'est des individus qui ont tenté de forcer l'entrée du stade du Parc des Princes. Est bien plus calme que la veille, soir du match. Nouveau bilan du parquet de Paris. 312 personnes sont en garde à vue, dont 87 mineurs. La plupart du temps pour des affrontements avec les forces de l'ordre ou des dégradations. Alors quand les joueurs ont fait un détour par l'Élysée dans l'après-midi, Emmanuel Macron a voulu afficher sa fermeté.
Malheureusement, on a vu, et je veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça. Des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées face à ce qui est inqualifiable. C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers et à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras le bol. Terminé.
Et les premières comparutions immédiates doivent débuter ce matin. Elles auront lieu bien au-delà de la capitale. Philippine Boulay, on l'a entendu dans la voix du président. D'autres villes ont été touchées. Le ministère de l'Intérieur en dénombre 71 au total.
Comme à Montluçon, Rouen, Saint-Étienne ou encore Montpellier. Selon le ministre de l'Intérieur, dans une quinzaine de villes, à Clermont-Ferrand par exemple, les scènes de violence se sont accompagnées de pillages, principalement dans des magasins de vêtements ou d'articles de sport. À Pau, c'est la bibliothèque municipale qui a été vandalisée. Une dizaine de personnes a forcé les portes d'entrée et s'en est pris au mobilier. À Niort, 5 personnes ont été interpellées après des tirs de mortier, des dégradations et le pillage d'une boutique.
On a eu un commerce de baskets qui a été cambriolé, ce qui est plus que regrettable. Ça n'est jamais arrivé. C'est extrêmement choquant.
Le maire Jérôme Baloge s'interroge sur la présence de nombreux mineurs samedi soir.
Tous n'étaient pas à commettre des actes. Mais que font des enfants, parce que ce sont des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, seuls, non accompagnés dans les rues.
À quelques semaines de la Coupe du Monde de football, l'élu compte mettre en place avec la préfecture des actions de prévention pour responsabiliser les parents.
Des débordements qui vous font sûrement réagir, vous nous le dites ce matin au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Et puis Apolline posera la question à Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui sera son invité à 8h30.
À l'actualité, c'est aussi cette battue citoyenne d'hier qui n'a rien donné dans le Gers. 400 personnes ont tenté de retrouver Liana, 11 ans, est disparue à la sortie de son collège vendredi. Un homme, le père de sa meilleure amie, est en garde à vue. Liana a été aperçue dans sa voiture. Il dit l'avoir déposé à la piscine, récit jugé incohérent par les enquêteurs. Nouveau regain de tension en Iran ce matin. Les États-Unis viennent d'annoncer à l'instant avoir frappé des radars et des sites de contrôle de drones. Réponse des gardiens de la révolution qui disent, eux, avoir visé une base utilisée par l'armée américaine. Tout cela quelques heures après que Téhéran ait exigé des garanties de sécurité avant de signer un accord.
Il est 6h04 sur RMC. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui.
À la demande de la France sur une escalade majeure au Liban que rien ne justifie. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour désigner le coup de force d'Israël. La prise de la forteresse de Beaufort. On est à 20 km au-dessus de la frontière et l'armée ne compte pas s'arrêter là. Elle a déjà ordonné l'évacuation des habitants d'une zone allant jusqu'à 20 km encore plus loin. De quoi nourrir l'angoisse des Libanais, Marion Gauthier.
Se demander jusqu'où ira l'armée israélienne
et appeler ses parents plusieurs fois par jour. Ils sont à Armèche, un village près de la frontière, Fares à Beyrouth, dans l'angoisse.
La situation, elle va de mal en pire. Tous les villages aux alentours d'Armèche, ils sont mis à terre. Pas de maison, pas de route, comme s'il est un désert. Et c'est la première fois que je sens que on n'aura pas l'occasion de revenir au sud du Liban. C'est difficile.
De plus en plus difficile d'imaginer la reconstruction, explique Pascal.
Je pense qu'avant, il y avait beaucoup d'espoir, que bon, c'était 3-4 kilomètres, qu'il y aura toujours des éléments à négocier. Mais en fait, non. On est malheureusement parti pour quelque chose qui va être beaucoup plus long.
Crainte d'une nouvelle occupation israélienne.
Au-delà de terre, on est en train de perdre une partie de nous-mêmes. Et puis le Liban est tout petit. C'est pas un autre pays. Le sud, c'est le Liban. Et les familles sont toutes connectées.
Certains confient ne plus avoir la force de parler. Trop de peine, de colère. Le sud est fini, écrit une habitante de Nabatieh. On nous a détruit nos souvenirs et nos familles.
Et toujours près de cette région du Liban, la ville de Tyr a subi hier ses plus lourds bombardements depuis le début de la guerre. Des immeubles entiers sont tombés, des secouristes ont dû évacuer. Les nouveautés du 1er juin et surtout une, c'est aujourd'hui que le SMIC augmente de 2,4% pour atteindre 1477 euros net. À part ça, le gaz baisse légèrement, près de 5% après une flambée le mois dernier. Légère hausse aussi du prix de certains paquets de cigarettes. C'est devenu une sorte de tradition des investisseurs du monde entier au château de Versailles. Ouverture aujourd'hui du sommet Choose France. L'Elysée prévoit des annonces historiques parmi celles qui ont été dévoilées. C'est 75 milliards d'euros investis par le géant japonais SoftBank, mais aussi, hier, c'est 600 millions du sidérurgiste Marcet Gaglia pour un site à Fos-sur-Mer.
Il est 6h07 sur RMC et désormais tous nos espoirs reposent sur elle à Roland-Garros, Diane Paris en 8e de finale.
Rendez-vous est pris, vous branchez RMC ou la radio digitale 100% terre battue en début d'après-midi. Son adversaire, ce sera une joueuse polonaise 114e mondiale, mais pour la française, c'est une première à ce stade de la compétition, Léna Marjac.
Et quoi de mieux que d'être pour la première fois en deuxième semaine d'un grand chelem à la maison. Roland-Garros, c'est comme chez elle ou presque. Diane Paris a grandi à quelques pas du stade. Et ce huitième de finale aujourd'hui est largement abordable face à Maja Chwalinska, une Polonaise 114e mondiale.
Une belle opportunité de pouvoir jouer une fille comme ça en huitième de finale de grand chelem, capable de sortir un très gros niveau de jeu aussi. On a envie et on se voit aller plus loin.
Plus loin, sa coach aussi y croit et l'espère. Julie Coin s'occupe de Paris depuis l'hiver dernier.
Faudrait qu'elle cède comme elle a très bien fait du public. Elle joue sur ça et la confiance qu'elle a accumulée ces derniers temps.
Au-delà de sa confiance et de son calme, Diane Paris s'appuie sur son revers à une main qui fait des dégâts sur terre. Pour Florent Serra, consultant RMC Sport, elle s'avance clairement en favorite sur ce match.
Là, on l'attend. On attend à ce qu'elle gagne, continue juste à faire ce qu'elle fait. Comme Loïse Boisson l'année dernière, on a envie qu'elle y aille aussi en quart, en demi, et pourquoi pas plus.
Alors pourquoi ne pas marcher dans les pas de Loïse Boisson, demi-finaliste surprise l'an passé? Diane Paris l'a confié. Si Loïse l'a fait, alors pourquoi pas elle aussi?
Et le gros match, ce sera ce soir, ce sera chez les femmes. D'ailleurs, la numéro 1 mondiale Sabalenka contre la japonaise Naomi Osaka. Hier, surprise, la 4 fois titrée à Roland, Iga Świątek a été sortie chez les hommes. Dans cette hécatombe de tête de série, ça passe pour Alexander Zverev.
Merci beaucoup Victor Pourchet, c'était le journal avec, je crois, que la Ligue des Champions qui va passer aujourd'hui à Roland-Garros. Notamment, ça devrait être un peu plus calme que ce qu'on a vu dans les rues de Paris, hein, du côté de la porte d'Auteuil, la ribouledingue, oui, s'amuser, faire la fête, klaxonner, de là à casser, à blesser parfois des forces de l'ordre, beaucoup moins. En tout cas, c'est ce que pense Alicia, je crois, qui nous appelle du Pas-de-Calais ce matin. Bonjour Alicia.
Bonjour Alicia.
Bonjour équipe du morning.
Alicia, vous êtes lensoise et vous dites que vous savez faire la fête sans dégrader.
C'est ça, je comprends pas du tout comment ça peut être deux salles, deux ambiances. On a tous la même passion. Nous, on a fait la fête. Les bars n'ont pas fermé la nuit. Et je me suis dit, attention, ça va être dangereux avec l'alcool. Et il ne s'est rien passé. On pouvait y aller avec des enfants. Pourtant, on y a été avec la peur à force de voir des images à la télé de comment ça se passe pour le PSG. Et en fait, ça s'est super bien passé à Paris. Et là, je ne comprends pas du tout comment il peut y avoir des jeunes avec des maillots du PSG qui veulent juste taper du policier.
Ouais, vous dites que ça s'est bien passé à Lens. Mais Alicia, vous avez souligner un truc quand même, hein, parce que la réalité, c'est que évidemment qu'une écrasante majorité des gens étaient là pour faire la fête.
Certains vont trop loin, font des choses qu'il ne faut pas faire. Je pense à des gens qu'on voit sur des voitures. Moi, j'ai vu des gamins assis sur le bord des fenêtres. C'est parfaitement irresponsable. Mais on n'est pas encore dans une logique de casse. Je me souviens l'an dernier, pardonnez-moi, de partir du Parc des Princes et en partant de voir quatre gars qui étaient en train de saccager le coffre d'une voiture. Donc c'est pas des supporters, ça, Alicia. Vous avez raison. Les gens qui veulent faire la fête, bar ouvert ou pas, fête ou pas, ça se passe bien quand c'est juste pour faire la fête.
C'est ça, mais quand je vois vos images, on voit, pas celle-là actuellement, mais il y avait un petit sur une moto sans casque avec un maillot du PSG, donc c'est un supporter, et il avait quoi? Il tirait du mortier sur les, ben sur oui. les policiers.
En direction des policiers, qui plus est, on a vu ça beaucoup.
Oui, et pourtant, il y avait un maillot du PSG, donc je comprends pas comment on peut vouloir faire la fête avec de la violence. Nous, ça s'est super bien passé, on a eu peur par rapport à ce qu'on est habitué à voir, mais j'ai vu des rues noires de monde. J'ai vu beaucoup d'alcool, mais il n'y a rien eu derrière. Il n'y a rien eu et les petits, ils étaient en sécurité. Les petits faisaient peut-être plus la fête que nous. Et ça s'est super bien passé. Alors que je ne comprends pas comment, à Paris, ça peut mal se passer, alors qu'à la balle, on a gagné, on est content.
Oui, c'est la fête. Merci Alicia. Merci beaucoup de votre appel ce matin au 32-16. Remarque judicieuse. On continue de parler des conditions de cette fête, justement, avec vous au 32-16 et sur le WhatsApp RMC.
Il est 6h11 et on continue aussi de parler football avec le choix de la rédaction en direct de Miami aux États-Unis. Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour à tous.
Martin, vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis. Alors, comment l'Amérique de Donald Trump s'apprête à accueillir cet événement mondial? La Coupe du Monde 2026, elle débute dans 10 jours, mais ça commence dès maintenant sur RMC. Et alors, Martin, on a envie de vous poser la question. Est-ce que les Américains ont la tête au mondial?
Alors, ils l'attendent, oui, de ce mondial, mais ce n'est pas vraiment ça qui rythme leur quotidien en ce moment.
À tout de suite.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h15 sur RMC et RMC Story.
RMC, le choix de la rédaction.
La Coupe du Monde de foot, ça commence dans 10 jours et toute cette semaine dans le choix de la rédaction en direct. On va prendre la température aux États-Unis, comprendre comment l'Amérique de Donald Trump se prépare à accueillir le monde.
Bonjour Martin Bourdin.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial aux États-Unis. Là, au moment où on se parle, chers amis, Martin Bourdin est sous les palmiers de Miami.
Presque chanceux.
20 semaines dernière. Martin, tiens, racontez-nous, est-ce que ça sent la Coupe du Monde déjà ou pas?
Pour vous donner une idée, plusieurs fois depuis que je suis arrivé jeudi soir, j'ai appris à des habitants de Miami que 7 matchs de la Coupe du Monde allaient avoir lieu dans leur ville. Donc, non, ça sent pas vraiment la Coupe du Monde. C'est la preuve, en tout cas, que pour le moment, ce mondial, il est assez discret. Il est même invisible à l'aéroport. Quand on arrive à Miami, pas le moindre produit dérivé là-bas. C'est pas beaucoup mieux en ville, parce que hormis autour du site de la future fan zone où tout est en train d'être installé, ailleurs, ce mondial n'est présent ni dans les rues, ni dans les conversations.
Mais alors, Martin, il parle de quoi, les Américains?
Eh bien, ils parlent du même sujet que les Français. Le sujet de préoccupation numéro un, c'est de finir les fins de mois. Les Américains aussi, comme en France, subissent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. J'ai pu me rendre compte sans trop de difficultés en posant mon micro devant une station-service.
Avant, un plein d'essence, c'était $40. Là, regardez, on est déjà au-delà. C'est autour de $60-65 maintenant.
Ici, les clients paient autour de $4.50 le gallon d'essence. C'est à peu près l'équivalent de 3 litres et demi. Alors, c'est moins cher qu'en France, mais c'est 50% de plus qu'au début du mois de mars.
Never this high in my life. Never.
Je n'ai jamais vu des prix aussi élevés de toute ma vie. Ce n'est vraiment pas un plaisir. J'aimerais acheter des vêtements, mais je ne peux pas. Alors, j'essaie de trouver des produits moins chers, des magasins moins chers pour économiser de l'argent. Je réfléchis aussi à prendre un logement plus petit. Je n'y connais rien au foot, mais on ne devrait pas célébrer quoi que ce soit en ce moment.
L'essence qui coûte plus cher, la nourriture aussi, les œufs, le lait, la viande notamment. On mange moins, me disait, un peu honteux d'ailleurs, un père de famille à la sortie d'un supermarché.
Oui, évidemment, on comprend, Martin, qu'on n'a pas trop envie de faire la fête là, à 10 jours du mondial.
Mais ça dépend quand même à qui on parle, Mathieu, parce qu'il y en a quand même qui sont à fond. Les Latinos, les nombreux habitants de Miami, originaires d'Amérique du Sud, pour eux, le foot, c'est presque une religion. Et en fait, ce qu'on espère surtout à Miami, c'est que cette Coupe du Monde permette de s'aérer un peu l'esprit. C'est Brian, un père de famille, qui résume le mieux.
Tout le monde cherche un moyen de se changer les idées et ça sera la Coupe du Monde. Ça va nous permettre de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, de profiter de la vie, peu importe ce qu'il se passe. La situation actuelle nous affecte tous. Donc la Coupe du Monde, c'est une bénédiction pour nous changer les idées et profiter.
et il y en a besoin. Récemment, un sondage expliquait que plus de la moitié des Américains estimaient être dans une situation économique pire qu'après la crise de 2008, par exemple.
Merci Martin Bourdin, envoyé spécial d'RMC à Miami aux États-Unis. On va aussi vous retrouver cette semaine à Houston, à San Antonio. Et je vous rappelle qu'RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde FIFA 2026 avec 100% des 104 matchs à commenter en direct. Pour vivre le mondial à l'antenne, ça se passe avec la Dream Team RMC et notamment 4 champions du monde, Samuel Umtiti, Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Lionel Charbonnier. Bref, ça va envoyer sur RMC. Hein.
J'ajoute qu'il y a des matchs décalage horaire avec l'Amérique de Martin Bourdin. Merci Martin, il y a des matchs qui se termineront pendant le morning.
Pendant le morning, ouais.
Ayez le réflexe, vous branchez sur RMC dès que vous vous réveillez, vous ne manquerez rien. Il est 6h18 et Julien est en ligne avec nous dans les Raux. Bonjour Julien.
Bonjour tout le monde.
Julien, vous êtes supporter de l'OM, mais vous étiez à Roland hier soir. Porte d'Auteuil.
Donc j'étais à Roland-Garros samedi soir et on est sorti vers 23h30. On avait une demi-heure de marche pour rejoindre l'hôtel. Et je dois vous avouer qu'on n'était pas très rassurés.
Vous avez vu des choses.
Pardonnez-moi, il faut juste le dire pour les non-parisiens. La porte d'Auteuil, Roland-Garros, c'est vraiment à quelques centaines, toutes petites centaines de mètres du Parc des Princes.
Voilà, c'est ça. On est passé sur la grande avenue là qui rejoint le Parc des Princes. On devait rejoindre l'hôtel vers la Tour Eiffel. Il y avait un gros cortège avec des feux d'artifice. Même au 14 juillet, on voit même pas ça. pardon. C'est vrai que, enfin, moi, j'ai vécu France 98. J'avais 11 ans. J'ai fêté ça avec mon oncle dans la ville la plus proche. On sautait partout, on faisait la fête, on se faisait des batailles d'eau avec les fontaines. Il y avait des voitures, on sautait autour, on chantait, mais à aucun moment on mettait des coups de pied dans les voitures, on cassait les vitres. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on a vu, c'est aberrant, quoi.
C'est aberrant, mais personne ne le comprend. Hein. Je crois qu'on aime le foot ou pas, personne n'arrive à comprendre. Ça gagne, ça casse. Qu'est-ce qui serait passé si Paris avait perdu? La même chose, à mon avis, strictement la même chose. Julien, merci de votre appel.
Non, mais merci à vous.
Mais bon retour, du coup. Bon retour dans les Raux.
Ah ben, c'est déjà fait, je suis déjà au travail, là.
Déjà.
Bon courage pour la journée, alors.
Merci, bonne journée à vous.
À bientôt,
merci
Julien.
Merci beaucoup, Julien. Il est 6h20.
Un peu de musique avec Damso ce matin qui a conclu sa tournée ce week-end, en tout cas la partie française de sa tournée, avec pas moins de 4 shows à la Défense Arena à Paris. Dernière performance hier soir et c'était grandiose. Alors non Damso, tu ne te ramollis pas, au contraire, c'était la 4e fois que je le voyais en live et je peux vous le dire, c'était de loin son meilleur show, que dis-je, sa meilleure pièce. Alors vous voyez, hein, l'atmosphère qui a été créée avec de la danse contemporaine, des jeux de lumière incroyables, des décors et des costumes soignés et une très grosse place laissée aux instrumentales. Le rappeur belge réussit à casser les codes des concerts de rap pour installer une vraie atmosphère et raconter une histoire. Mais pour ça, pas de duo ni de conversation avec le public, ce qui a suscité un peu d'incompréhension chez ses fans. Vous l'aurez compris, Damso n'est plus le même qu'hier. Ça, on l'a bien compris. Et moi, j'ai aimé personnellement.
Ouais, voilà. Et on aime.
Et ce sont mes images sur RMC Story.
En direct sur RMC Story, exactement. Le week-end d'Élise Dangean. Ouais, je peux vous montrer des vidéos du périph' parisien, mais elles sont dans les infos
si
depuis deux jours. On les voit déjà à la télé depuis deux jours. 6h21 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous, les trois grands titres de l'actualité avec Élise.
Et alors justement, on ne veut plus voir ça. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui juge inqualifiables les débordements et les violences qui ont entaché la victoire du PSG en Ligue des Champions. Le bilan provisoire fait état d'au moins un mort et des dizaines de blessés. Les joueurs parisiens qui étaient donc reçus à l'Élysée hier entre deux célébrations au Champ de Mars et au Parc des Princes. Et puis on est toujours sans nouvelles ce matin de la petite Léana, jeune adolescente de 11 ans disparue depuis vendredi. Une battue hier n'a rien donné, c'est dans le Gers. Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue.
Il est 6h22. Et bonjour Aurel Guedj.
Bonjour.
Salut Aurel.
Notre médecin du matin, c'est l'heure de la consultation gratuite.
Et oui, ce matin, on va se demander pourquoi eh bien, on a des pellicules. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette phrase de « Est-ce qu'il neige ?» Non, j'ai juste des pellicules. Eh bien, vous saurez tout des pellicules dans un instant.
Géraldine de Borug, dans la météo, c'est moi. Et non, il ne va pas neiger. 6h22, tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Et donc on a un Français sur deux qui souffrira de pellicule au cours de sa vie. Aurel Gage, ces petits points blancs disgracieux qui tombent sur les épaules et qui peuvent être une véritable source de gêne au quotidien. Mais alors au fond, docteur, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est grave?
Non, c'est pas grave. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste de la peau. C'est des morceaux de peau qui se sont reproduits un petit peu trop vite et que vous allez voir parce qu'ils vont être un petit peu agglutinés. Votre peau se renouvelle constamment et vous pourrez me dire, mais je comprends pas, j'ai pas de pellicule sur les bras, j'ai pas de pellicule sur le torse. Non, puisque là, en fait, votre peau va se reproduire normalement. C'est juste que le mécanisme des pellicules, c'est une peau qui va se reproduire trop vite. Donc, vous allez pas avoir le temps d'avoir plein de petites particules de peau. Elles vont s'agglutiner et ça va faire des gros morceaux de peau. Et en fait, donc, tout simplement, ce blanc, c'est des morceaux de peau.
Mais pourquoi est-ce que certaines personnes ont-elles des pellicules, d'autres non, certains plus que d'autres?
À cause d'un responsable, un coupable. Une bactérie, enfin c'est un champignon, pardon, son nom, Malassezia. Malassezia, ce champignon va avoir une particularité. On l'a tous hein, autour de cette table, je vous le dis. L'histoire de ce champignon, c'est juste qu'il va festoyer grâce à vos cheveux, puisque vos cheveux sont lubrifiés grâce au sébum. Quand il va se nourrir, il va induire de l'inflammation. L'inflammation, ça va encore plus refermer les pores, donc il y aura encore plus de sébum, donc il va encore plus festoyer. Et donc vous allez directement eh bien, avoir des pellicules, puisqu'il va en induisant une inflammation, il va aussi faire que la peau va se reproduire trop vite et va y avoir des pellicules.
Mais si on a tous le champignon, pourquoi il y en a certains qui ont plus de pellicules que d'autres ?
Eh bien en fait, vous allez avoir des personnes qui vont produire plus de sébum. Par exemple, les hommes en moyenne produisent plus de sébum, donc les hommes ont plus souvent des pellicules. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir des défenses immunitaires qui vont être un peu trop réactives ou alors désorientées, exemple quand vous avez de l'immunodépression. Ou par exemple, quand vous avez de la fatigue ou du stress, ça peut aussi faire que vous allez surréagir face à ce champignon-là.
Et comment on traite ?
Eh ben l'idée, ça va être de réguler l'activité du champignon, pas de le détruire, puisqu'il faut bien comprendre que on l'a tous et que détruire la flore intestinale, c'est compliqué. Donc on va essayer d'abord de faire que il va moins s'activer. Donc on va avoir les shampoings antipelliculaires. C'est pas des antifongiques. C'est-à-dire l'idée, c'est pas de détruire le champignon, c'est vraiment de réguler son activité. L'autre chose, c'est de ralentir la reproduction de la peau. Et puis quand vraiment, vraiment c'est gênant, bah on passe à quoi ? On passe à des molécules qui tuent. Ça s'appelle les antifongiques, qui vont tuer. Alors oui, vous avez raison. Dans certains cas, on peut donner des corticoïdes parce qu'on se dit on va tenter les deux. On va se dire on tue le champignon avec des antifongiques et puis on évite qu'il y ait une réaction inflammatoire derrière. Mais compte tenu du fait que les pellicules c'est juste disgracieux, on évite le plus souvent. Donc on reste sur les shampoings antipelliculaires et le plus souvent on a une bonne tolérance et une bonne réaction.
Merci beaucoup Aurel Gage et on appréciera. L'intégrale de Grey's Anatomy absorbée et digérée par Élise Dangean, parce que là, j'étais pas prêt sur les corticoïdes. Bon,
pourtant, t'as beaucoup de cheveux. Hein,
il est 6h28 sur RMC. RMC Story. Gérard est avec nous dans la Manche.
Salut Gérard.
Salut.
Comment ça va ce matin?
Ça va, impeccable.
Bon, est-ce que vous avez identifié le mot caché ce matin, Gérard?
Ben ouais, je dirais que c'est même ribouledingue en fait, mais...
Exactement. Voilà. Bravo Gérard.
Une fête, une partie de plaisir, quand ça se passe bien, une fête débridée, mais on n'est pas obligé de tout casser, ça c'est le débat
du jour. Exactement ce que j'allais dire, c'est la modération, c'est important.
Eh oui, Gérard à Saint-Lô dans la Manche. Merci beaucoup Gérard, vous repartez avec le cadre photo connecté.
Agfa Photo.
Une bonne journée.
Merci Gérard, vous allez pouvoir afficher instantanément toutes vos photos, vidéos et même vos messages sur ce cadre connecté. Il est 6h29.
Il est 6h30 sur RMC.
5-7, le Morning RMC.
L'heure du journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, la fermeté promise par Emmanuel Macron.
Ras-le-bol de la violence, voilà ce qu'a dit le président à propos des 780 personnes qui avaient été interpellées samedi soir en marche du sacre du PSG. Alors la fête, la vraie, s'est prolongée hier soir au Champ de Mars et au Parc des Princes dans une bonne ambiance, on va vous la raconter. Et je vous signale aussi que c'est ce matin que le SMIC augmente de 35 euros net pour plus de 2 millions de Français.
Emmanuel Macron a donc promis d'être intraitable avec les casseurs de samedi soir.
On ne veut plus voir ça, ras-le-bol, fini, terminé. Voilà ce qu'a dit le président en faisant cette promesse donc de réponse ferme à l'égard des 780 personnes interpellées dans la nuit de samedi à dimanche. 32% de plus que l'année dernière lors du premier sacre du PSG. La moitié pour des violences à l'égard des 22 000 policiers et gendarmes qui étaient déployés partout en France. 57 blessés dans leur rang. Ils racontent leur soirée écoutée à Julie Brault pour RMC.
Insultes, tirs de mortiers d'artifice, jets de pavés, de boules de pétanque et autres projectiles. Les casseurs étaient encore plus agressifs que l'année dernière. On était dépassés, confie un policier mobilisé à Paris le soir de la finale. Des violences commises par des délinquants de plus en plus jeunes, déplore Yoann Maras, délégué national du syndicat Alliance Police.
Ces jeunes, ils sont désinhibés. Ils venaient pour dégrader, casser, s'en prendre aux forces de l'ordre et se filmer, mettre ça en ligne sur les réseaux sociaux comme un trophée. Et on a l'impression que rien n'est fait derrière pour stopper cette spirale.
Alors que les premiers gardés à vue seront jugés à partir d'aujourd'hui en comparution immédiate, le syndicaliste demande des sanctions judiciaires fermes.
On le sait, l'année dernière, suite à la finale, on a eu moins de 5% de condamnations. Donc si cette fois on recommence dans le même schéma, on va pas y arriver.
Condamner les casseurs à des peines de prison, seule solution selon lui pour éviter de nouveaux débordements d'ores et déjà redoutés ces prochaines semaines lors de la Coupe du Monde de football.
Des violences recensées dans 71 villes, y compris des endroits qui n'ont rien à voir avec le PSG, comme Niort, Agen, Pau, Montluçon. Des violences, une soirée qui a été endeuillée par un mort à Paris et trois blessés graves, dont une femme attablée en terrasse, percutée par une voiture avec 8 personnes à bord qui fuyaient les policiers après les avoir visés au mortier d'artifice. Ouais,
viser des policiers au mortier d'artifice à 8 dans une voiture. J'ai pas le modèle du véhicule, hein, mais il y a quelque chose de pas réglementaire, il me semble, dans cette histoire qui blesse une femme qui n'a rien demandé à personne si ce n'est faire la fête. Est-ce qu'on est encore capable de faire la fête sans tout casser, sans tout brûler? Vous répondez à cette question au 32-16. Ce matin, on y revient longuement.
Heureusement, la soirée d'hier a été bien plus calme que celle de samedi, avec des images de liesse dans la capitale.
Oui, 47 000 personnes dans la soirée au Parc des Princes pour le retour des joueurs du PSG qui auparavant avaient présenté le trophée à l'Élysée, et devant 100 000 personnes qui avaient attendu tout l'après-midi au Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel. Images dont rêvaient, vous le savez, les dirigeants parisiens.
Ça fait trop du bien, franchement, c'est un moment intense, on est fiers.
C'est extraordinaire, moi j'ai même plus de voix carrément, je peux même plus parler. Paris,
Paris, Paris, Paris, Paris, Paris. Et cette année, c'est encore mieux, parce que c'est encore plus proche, c'est encore plus exceptionnel.
C'est incroyable, je supporte Paris depuis tout petit, franchement c'est incroyable, je suis trop content. Et voir les joueurs que j'aime le plus à côté de moi, c'est le meilleur truc.
Champion, champion, champion.
C'est incroyable, franchement ça fait longtemps qu'on le supporte, et c'est un peu mérité. On l'a pas arrêté.
Et on revient l'année prochaine pour la troisième. C'est ce qu'a promis Ousmane Dembélé, qui rejoindra les Bleus demain à Clairefontaine pour préparer la Coupe du Monde qui commence dans 10 jours tout pile, hein, ce matin.
Il est 6h34 sur RMC et 400 personnes participaient hier à une battue dans le Gers.
Pour tenter de retrouver la jeune Liana, adolescente de 11 ans, portée disparue depuis vendredi dernier à Fleurance. Plus personne ne l'a vue en fait depuis qu'elle est montée à la sortie du collège dans la voiture d'un homme de 41 ans, selon le récit d'un témoin, homme qui a depuis été interpellé et placé en garde à vue. Alors Jean-Wilfried Forquès, pour RMC dans le Gers, ce sont les habitants, les bénévoles qui ont participé à cette battue.
Pendant de longues heures, jusqu'à la tombée de la nuit, des volontaires ont ratissé un immense périmètre établi par les gendarmes pour tenter de retrouver la fillette. À l'image d'Afoncia et Montserrat, elles ne connaissent pas Liana, mais ces deux habitantes tenaient absolument à participer aux recherches.
Je suis là comme si j'étais parrain, ami, pour trouver la petite qui a disparu.
Pour aider, pour retrouver des indices, pour retrouver la petite Liana.
Ludovic était présent également, il connaît bien la collégienne.
C'est une petite fille de mon village et tu prends le bus avec mon fils tous les matins et tous les soirs pour rentrer en fait, voilà. Donc ça nous touche personnellement parce que ça aurait pu être un de nos enfants.
Depuis l'annonce de sa disparition, c'est toute la commune qui est sous le choc. Alors le maire de Fleurance, Grégory Bobato, n'a pas eu de mal à trouver des volontaires pour cette battue.
La mobilisation des Florentins a été extrêmement importante. Plus de 500 Florentins en moins d'une heure entre le moment où on a fait ce communiqué de presse et le moment du début de cette recherche citoyenne.
Des affichettes à l'effigie de Liana ont été accrochées dans la commune, jusque devant son collège, où les cours reprennent ce matin. Sans la jeune fille.
C'est ce matin que le SMIC, je vous le disais, augmente pour un peu plus de 2 millions de Français. Effet mécanique de l'inflation, 35 euros net par mois. Et alors ça suffit, ces 35 euros, à faire basculer les salaires minimum de 126 branches en dessous du SMIC, d'après les chiffres du gouvernement, qui demande, sous peine de sanction, à ces secteurs eh bien, d'augmenter les salaires pour tous ces Français qui sont payés désormais moins que le SMIC. Des exemples, écoutez avec Antonin Audion.
C'est le cas d'Isabelle, 59 ans, employée dans un abattoir. Elle venait de dépasser le niveau du SMIC au bout de 25 années dans cette même entreprise. Mais à partir d'aujourd'hui...
Le SMIC, il va être 4 euros plus cher que moi. Je trouve ça inadmissible.
Même situation pour Claire, 10 ans d'ancienneté dans ce même abattoir, où elle a occupé de nombreux postes. Son salaire a lui aussi été rattrapé par cette revalorisation du SMIC, si bien qu'un débutant sans aucune expérience touchera le même salaire qu'elle.
C'est pas normal du tout. On a de l'expérience plus de l'ancienneté. Ce serait pas normal qu'il gagne plus cher que moi.
Dans ces entreprises, en effet, les premiers échelons de la grille salariale sont encore sous le SMIC. C'est illégal et cela concerne 70% des branches professionnelles selon le ministère du Travail. Une stratégie pour tirer les salaires vers le bas, selon Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.
Dans les grilles, quand les niveaux sont complètement tassés et complètement en dessous du SMIC, ça tire mécaniquement tous les salaires vers le bas, car les plus bas niveaux, ils sont en dessous du SMIC. Et donc du coup, ça tire tous les niveaux et tous les salaires vers le bas.
Les entreprises ont 45 jours pour lancer des négociations avec les partenaires sociaux et se mettre en conformité. Sans accord d'ici à la fin de l'année, des sanctions pourraient tomber, menace déjà le gouvernement.
C'est la deuxième semaine à Roland-Garros et il reste une Française, Diane Paré, qui jouera son huitième de finale aujourd'hui contre une adversaire polonaise 114e mondiale et largement à sa portée. On vit ça évidemment sur RMC. Et puis le sprint final en rugby, le Racing est allé gagner à Clermont 41-13 hier soir lors de l'avant-dernière journée top 14. Gros coup pour les Racingmen qui reviennent dans les six premiers. Un peu plus tôt, Bordeaux, double champion d'Europe également, qui avait perdu 27-22 à Toulon.
Le Quintet Quentin, c'est à Vichy aujourd'hui.
À 13h50, les pronostics de la Dream Team des courses RMC, le 13, le 3, le 13 en favori Indian Pacific, le 3 en outsider, Iris Intense.
Merci beaucoup Quentin Vinet, c'était le journal de 6h30 sur RMC et RMC Story. C'est Yannick qui est en ligne avec nous dans les Pyrénées-Orientales à présent au 32-16. Bonjour Yannick.
Bonjour Yannick.
Soyez le bienvenu sur RMC.
Alors Yannick, vous, il y a une image plus qu'une autre qui vous a fait réagir ce week-end en marge des célébrations du deuxième sacre du PSG en Ligue des Champions.
Oui, oui, c'est l'image de M. Olive, là, le député de la République qui... Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus parce que le reste, malheureusement, on est habitué.
Alors, l'élu de Poissy, région parisienne, très attaché au PSG, qu'on a vu sur une voiture, hein, c'est ça ?
Oui.
Pour tout vous dire, j'ai vu que sa vidéo d'excuses.
Ouais, ben moi, j'ai vu. Moi, au début, quand j'ai vu cette vidéo, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est un fake, c'est pas possible. C'est pas possible. Et après, justement, j'ai vu cette vidéo d'excuses qui a confirmé que c'était bien lui. Mais, enfin, il peut fêter. Je dis pas qu'il fête pas la victoire du PSG. Il y a pas de souci. Je suis sûr qu'il y a plein d'élus de la République qui ont fêté cette victoire. Il y a pas de souci. Mais, il se doit de montrer l'exemple. Et les jeunes qui avaient à côté dans la vidéo, les jeunes qui avaient à côté, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, mais attendez, nous, on nous réprimande parce qu'on fait un peu trop la fête, des trucs comme ça. Bon, je parle pas des casses, hein, je parle de... Et un monsieur qui doit représenter l'ordre, se permet de faire ça. Enfin, je sais pas, il y a quand même un décalage...
Alors, ce qu'il a expliqué, Yannick, c'est que le conducteur du véhicule sur lequel il est monté était un ami... Voilà, il n'y a pas eu de dégradation de la voiture, je crois.
Ouais, mais bon, enfin, moi, c'est...
Il a une formulation où il explique que
La passion a pris sur la raison.
Bon, en tout cas, Yannick, ça vous a choqué qu'un élu de la République se prête à ce jeu-là, dans un week-end où on pose la question de notre manière de célébrer, et cette question, on la pose pour tous. Merci, Yannick. Non, vous avez raison, cette vidéo, on l'a vue, elle vous a fait réagir. J'ai quelques messages sur le WhatsApp RMC qui vont dans ce sens-là, au sujet du député Carl Olive. Merci beaucoup, Yannick. Alors, on parle beaucoup, et on va en reparler hein, ce matin, des dégradations et des violences qu'on a pu voir. On va aussi parler du sportif, Virginie Fulpin. C'est l'heure de la causerie bientôt.
Vous avez préféré quoi, vous, la première ou la deuxième ? On va en parler.
C'est dur.
Il faut choisir. Vous avez un peu de temps pour choisir. Anthony Morel pour C'est déjà demain.
Alors, on connaissait les montres connectées. Vous avez peut-être déjà utilisé les lunettes connectées. L'étape d'après, c'est le collier connecté.
Ah, pourquoi pas ?
Bah voilà. Bah,
quitte à être connecté.
Très chic.
Mais avant cela, en un siècle, la France est passée de 600 000 cafés à 34 000. Une tendance qui n'est pas prête de s'inverser. Bonjour Anne Souyris.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice écologiste de Paris.
Et pour sauver ces cafés et les petits commerces, vous avez une idée, taxer les grandes surfaces. On en parle dans une minute sur RMC, RMC Story.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h44 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil.
En un siècle, la France est passée de 600 000 à 34 000 cafés et sans bistrot, pas de lien social. Et sans lien social, eh bien, les gens meurent.
Bonjour Anne Souyris. Vous êtes sénatrice écologiste de Paris et co-signataire avec Marine Tondelier d'une tribune parue dans la tribune dimanche ce week-end. La disparition de nos cafés, un risque existentiel pour nos sociétés, mais pas une fatalité.
Alors, pas une fatalité, vous avez une solution que vous proposez, taxer les grandes surfaces. Comment ça marcherait ?
Alors, vous savez, déjà, les grandes surfaces en hors de la ville, hein, je ne parle pas de ce qui se passe en centre-ville, eh bien, ça a dépeuplé les centres-villes, notamment tous les petits circuits commerciaux qui existaient auparavant se sont vus complètement dépeuplés. Et donc, les bistrots qui sont aussi partis de cette manière-là. Alors, ce n'est pas toujours le cas dans les villages où il n'y avait déjà pas un centre-ville avec énormément de petits marchés ou quoi, mais quand même. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la réalité, c'est que même ces 10 dernières années, vous avez un dépeuplement complet avec des gens qui aussi n'habitent plus dans les villages à cause de ça, parce que ça n'a plus d'intérêt d'être là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les gens restent chez eux. Et quand la solitude est là, la solitude tue. Vous savez que la solitude tue plus que le tabac et l'alcool en France. C'est une réalité, épidémique qui est relevée par l'OMS actuellement et sur laquelle, c'est ça la bonne nouvelle, effectivement, on peut lutter. Donc oui,
comment vous voudriez les taxer justement?
Voilà. Alors, c'est une taxe qui existe déjà, la TASCOM, hein, qui existe sur les surfaces commerciales, sur l'intérêt en fait commun, donc et des communes. Et l'intérêt, c'est que c'est une taxe que les communes récupèrent pour pouvoir investir pour l'intérêt collectif. Donc là, c'est typiquement un intérêt collectif. Donc l'objectif est une surtaxation de ces hypermarchés qui ont des marges monumentales et qui ont une responsabilité directe, hein, quand même, de cette histoire-là.
Qui ont des marges monumentales. Ce qu'ils vont vous dire, pardonnez-nous, on les accueille aussi.
Et
par ailleurs, ce sujet des cafés, des bistrots, des centres bourgs, il intéresse particulièrement nos auditeurs.
Absolument.
Mais vous savez ce que va dire Michel-Édouard Leclerc? Il va dire, si vous me taxez, ça va se répercuter sur le prix, donc sur le pouvoir d'achat des Français, donc sur le panier de course.
On a fait une formidable commission d'enquête sur la question des marges des hypermarchés. Je peux vous dire qu'il y a une marge, hein, pour laquelle, si vous voulez inviter d'autres sénateurs, vous verrez que sur ce sujet-là, il y a pas de problème. Ils ont des marges larges. Et en plus, on ne demande pas des taxations phénoménales. Donc non, ça ne les ruinera pas. Ça ne sera pas non plus un coût pour les petites municipalités qui ne peuvent pas payer pour l'instant pour installer des cafés. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, vous savez, si on donne un petit coup de pouce, après, il y a des endroits où ça s'est déjà fait et où des cafés existent qui sont aussi tenus par la population locale. Donc, il peut y avoir aussi... C'est un entraînement vertueux. Donc, ça existe, par exemple, dans les Landes, il y a des cafés qui existent et qui sont tenus les uns après les autres. Et c'est le centre de la vie locale. Mais... C'est très important. Actuellement, on a un vieillissement de la population avec des personnes qui restent complètement toutes seules et qu'on retrouve mortes chez elles, seules. C'est ça la réalité quand même de nos campagnes.
Mais est-ce que les grandes surfaces sont vraiment responsables de ça? Parce que vouloir une surtaxation des grandes surfaces, c'est la politique du bouc émissaire. Est-ce qu'elles sont vraiment responsables de la désertion de nos centres-villes et
de la désertion des centres-villes, c'est complètement sûr. Bien entendu. Alors franchement, tout le monde, les chiffres le montrent, il n'y a pas de sujet.
Donc elles doivent payer.
Payer, c'est pas une sanction, c'est une participation. Excusez-moi, c'est pas toujours les impôts, c'est pas une sanction. Quand vous payez vos impôts, vous n'êtes pas sanctionné. On vous donne quelque chose aussi en échange. Les gens qui travaillent dans l'hypermarché, eux aussi, ils ont le droit à un bistrot dans le village à côté. Donc, ça n'est pas une sanction. C'est vraiment une participation. Et je pense que même, un monsieur Leclerc peut arriver à un moment donné je suis d'accord pour ce type de choses. Et moi, je le mets au défi. Faites-le. Aidez-nous à recentraliser.
Vous parliez de la solitude.
Je suis pas en train d'interdire
le combat que vous menez, en l'occurrence. Bon, quand on sort, si on est dans l'hypermarché, je préfère aller au café, sincèrement, que dans l'hyper. Mais il y a encore une vie sociale. Pourquoi c'est pas Amazon que vous visez? Là, on est tout seul chez soi, enfermé dans une économie numérique. Aussi, on pourrait les taxer.
Parce que il se trouve que le déclencheur, ça a été les hypermarchés à l'extérieur des villes. C'est comme ça. Je veux dire, après, on pourrait imaginer que ça s'élargisse largement. Là, c'est localisé. C'est une participation locale. Et vous savez, la participation, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'hypermarché, il participe de la vie locale. Mmh. Amazon, non.
Moins. Donc, merci voilà. À Thuris. Merci beaucoup, sénatrice écologiste de Paris et cette
mais
tribune.
Mais bon, pourquoi pas Amazon, hein? Moi, je suis pas en désaccord. Vous m'avez donné une idée.
La disparition de nos cafés, un risque existentiel pour nos sociétés, mais pas une fatalité. C'est cette tribune que vous signez pour sauver nos cafés et bistrots, pour les ranimer parfois. Merci beaucoup. Il est 6h49. Élise, les trois grands titres de l'actu ce matin.
On ne veut plus voir ça, ça n'est pas ça, le foot. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à l'Élysée devant les joueurs du PSG après leur deuxième sacre en Ligue des Champions. Le président qui promet d'être intraitable avec les casseurs. On rappelle que près de 800 personnes ont été interpellées ce week-end. Dans le Gers, les recherches continuent pour tenter de retrouver la petite Liana, 11 ans, portée disparue depuis sa sortie du collège de Fleurance vendredi après-midi. Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue. Et puis des changements en ce 1er juin, et notamment la hausse du SMIC au niveau de l'inflation, plus 2,4%, soit environ 34 euros net par mois.
Il est 6h50. Et c'est l'heure de la causerie. Si on parle beaucoup des débordements sécuritaires autour de ce sacre du Paris Saint-Germain, parlons un peu du sportif, l'histoire du foot qui s'écrit sur RMC, bien entendu. Virginie Fulpin, on revient sur le sacre du Paris Saint-Germain, vainqueur d'Arsenal au tir au but samedi soir.
Et Virginie, c'est une deuxième Ligue des Champions qui est encore plus belle que l'an dernier.
Bah, plus belle parce que plus dur à aller chercher. Alors, vous pouvez tous vous moquer de moi là autour de cette table parce qu'en septembre j'avais dit jamais ils ne réussiront à enchaîner deux victoires de suite dans cette compétition. Ok, je me suis trompée, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en fait ça me semblait tellement dur ce back-to-back, comme on dit, deux victoires de suite avec les plus grands qui arrivent. Hein. Ça veut donc dire que le Paris Saint-Germain fait désormais partie de ce cercle très fermé de 9 clubs en tout avec des voisins comme le Real Madrid, le Milan AC, Liverpool. Ça vous pose un club et ça me fait taire, ce qui n'est pas plus mal non plus.
Non, on ne veut pas que vous vous taisiez Virginie. Et non, vous avez raison, ça ne fait que renforcer l'exploit finalement que cette chronique de début de saison. La coupe, elle a été difficile à aller chercher, c'est vrai.
Bah, à l'image de la finale. L'an dernier, honnêtement, au bout de 5 minutes, on avait compris que l'Inter Milan ne faisait pas le poids face aux Parisiens. Samedi, au bout de 5 minutes, Arsenal avait marqué et vu que les Anglais cadenassent absolument tout, on se demandait bien comment ça pouvait tourner dans le bon sens. Et on a tremblé jusqu'au bout des tirs au but. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui est meilleur ? Écraser une équipe qui ne fait pas le poids ou aller chercher ce deuxième sacre avec la rage au ventre, se battre comme des chiffonniers pour décrocher le Graal ? Moi, je penche pour la deuxième solution, personnellement. Et puis, tout au long de la saison, ça n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Il y a eu des merveilles, comme face au Bayern Munich, bien sûr. Mais il y a aussi eu des doutes, comme des défaites en phase de poule. Donc, c'est encore meilleur.
Le PSG qui prouve donc qu'il sait gérer tous ces moments-là, désormais.
C'est là qu'on se rend compte du palier franchi avec Luis Enrique. On va quand même rendre hommage à l'entraîneur, grand artisan de cette deuxième victoire. Cet homme-là, il a connu des difficultés au départ au PSG, il était très critiqué. Il est passé au-dessus et il a fait passer toute l'équipe, tout le club au-dessus. L'an dernier, quand il a conquis la première Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, c'était magnifique, mais là, remettre le couvert quand on a une cible de champion d'Europe sur le dos, oui, c'est encore plus fort. Alors j'ai envie de dire que maintenant, il n'y a plus qu'à faire comme Zinedine Zidane avec le Real Madrid, en gagner 3 de suite.
Oui.
Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais deux fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour la troisième.
Voilà. C'est mieux quand c'est lui qui
a l'année prochaine.
Si on prenait une troisième sur le maillot des Bleus déjà, en route là, puisqu'on est gourmand et qu'on a envie de
des étoiles.
On va parler évidemment du sportif, du football, parce que vous aimez ça et que vous suivez ça sur RMC. 7h10, Jean-Louis Tour, rédacteur en chef du foot sur RMC, en direct avec Apolline tout à l'heure. On va parler de l'autre face de la même pièce, si j'ose dire, du volet sécuritaire avec Frédéric Lauze, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, à 7h40, avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, à 8h30. Mais en fait, c'est surtout avec vous qu'on en parle, avec vous, au 32-16, 6h53.
Et c'est l'heure de C'est déjà demain avec Anthony. Alors Anthony, on connaissait les montres connectées, les lunettes connectées. Prochaine étape, le collier connecté, un pendentif couplé à une intelligence artificielle qui suit tout ce que vous faites au quotidien. C'est le nouvel accessoire que les gérants de la tech veulent nous convaincre d'acheter. Ouais. Ça sert à quoi?
Bah, plein de choses. Alors, je vois que Virginie a un magnifique collier. Je suis sûr qu'il n'est pas connecté. Vraiment.
Alors, ça, c'est pas plus que moi.
Vraiment, mais c'est saut 2025. Mais non, l'étape d'après, c'est effectivement d'avoir un pendentif avec de l'IA à l'intérieur. C'est Meta, notamment la maison mère d'Instagram, de Facebook, qui travaille sur le sujet. Ça servirait notamment, eh bien, à enregistrer et analyser tout ce qui se passe autour de moi tout au long de la journée. Je ne sais pas si on a vraiment envie d'avoir ça, mais en tout cas, le projet est le suivant. Donc, en gros, on porte ça soit en pendentif, soit en forme de pins qu'on va pouvoir clipser à un t-shirt, à une chemise ou à une veste. Et donc, il va, tout au long de la journée, grâce à des micros embarqués, des petits capteurs, eh bien, analyser tout ce qui se passe autour de moi. Donc, par exemple, je sors d'une réunion, il va pouvoir me faire le résumé de la réunion. Je lui dirai, ah, bah, je ne sais plus, Jean-Michel, il a dit quoi déjà pendant la réunion? Hop, et il va, voilà, il faut parler avec son collier, hein, ce qui est aussi un concept, évidemment. J'ai oublié.
Ouais, mais enfin, les gens parlaient déjà dans leur barbe un peu.
Oui, bah, c'est vrai. Bah, là, c'est l'extension finalement de ça. Ah, bah, je me souviens plus. Il y a 3 mois, j'avais rencontré un gars. Il était intéressant. Il m'avait raconté. Il était vigneron. Tu peux me rappeler qui c'était? Ah, ouais, exactement? Ça... Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Voilà, vous allez avoir le résumé de votre conversation. J'ai perdu mes clés. Hop, bah, c'est le petit collier qui va me dire, ah, ouais, t'as perdu tes clés. À 12h50, tu les as oubliées. Là, c'était bah, sur le canapé, hein, tout simplement. Tu peux retourner les récupérer. Donc voilà. En gros, le principe, c'est d'avoir une sorte de mémoire externalisée qu'on va pouvoir solliciter à chaque instant.
Si je vous l'offre, ça veut dire c'est un mouchard.
Ça peut être un mouchard aussi. Non, mais c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire vraiment, c'est où est-ce que, en termes d'acceptabilité sociale, jusqu'où on accepte d'aller en termes, voilà, avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur le chemin d'une IA qui méthodiquement va voir tout, entendre tout et se souvenir d'absolument tout. On avait déjà les lunettes qui vont très très loin avec des fonctionnalités qui vont aller jusqu'à la reconnaissance faciale. Mais avec ce petit collier connecté, ça ajoute encore une brique d'intrusion supplémentaire. Je suis pas convaincu à titre personnel.
Merci, Anthony Borel. Elle a pas besoin de collier parce qu'elle se souvient de tout. C'est Apolline. Bonjour Apolline.
Ça dépend, parfois il y a des petits trous quand même. Enfin, globalement ça fonctionne encore un petit peu. Salut à tous, excellent lundi. Évidemment, on va revenir sur ces violences. Violences qualifiées d'inqualifiables justement par Emmanuel Macron. Après la victoire du PSG samedi soir, la fête a été en partie gâchée. On revient largement sur cet événement ce matin. On attend vos témoignages, vos réactions. Vous nous appelez au 3216 pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez vu peut-être, ou vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612 424, à tout de suite.
Jusqu'à 7h, 5-7, le Morning RMC.